Les temps qui courent, Ilinka Negulesco, Koyan Guyen et moi-même avons décidé de fabriquer un pop & co dédié à une musique de l'espoir. Une musique qui vient des tropiques, d'un Brésil démocratique et en pleine croissance. À la fin des années 50, des hommes et des femmes inventent la bossa nova. Elle part de Rio et se fait entendre dans le monde entier, aux États-Unis et jusqu'ici. Je l'ai découverte grâce à une chanson d'un aventurier musicien qui s'appelait Pierre Barou. Il a fondé un label qu'il a baptisé d'un mot brésilien, Sarava. Et dans une chanson qui s'intitule Samba Sarava, Pierre Barou dit « J'en connais que la chanson incommode, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode. Moi je l'aime et j'ai parcouru le monde en cherchant ses racines vagabondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter. » Étienne Dao a d'autres mots pour parler de la bossa nova qui vient de la samba, il dit que c'est une mélancolie solaire. Vous entendrez Étienne Dao et Arnold Turboust à la fin de cette émission, parce que ce matin, on entre dans le cœur d'une chanson qu'ils ont écrite à quatre mains. Non, à six mains, puisqu'il s'agit d'un duo entre Étienne Dao et Astrud Gilberto. Bonjour, bienvenue, c'est Pop N Bossa.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Et on va procéder comme pour un générique de film. Dans les rôles principaux de ce Pop & Co qui vous propose une histoire de poche de la bossa nova apparaîtront
João Gilberto, Antônio Carlos Jobim ou Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Nara Leão, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque ou Chico Buarque de Holanda.
Et Anaïs Fléchet, qui est historienne et dont je ne pourrais pas égaler la prononciation. Je dirais par exemple, João Gilberto, dont je tape les consonnes et les voyelles sur mon clavier des dizaines de fois, pour revoir la même vidéo. Celle d'un concert qu'il donne en 1980 pour TV Globo. Il est sur scène, assis sur un cube blanc, seul avec sa guitare, et une gamine fait son entrée. Elle a 14 ans et elle s'assoit au pied de João Gilberto. Elle s'appelle Bebel, c'est sa fille, et elle commence à chanter en tremblant de peur et en souriant de plaisir. D'abord l'absence et le chagrin qui va avec. Elle est partie, elle lui manque, il l'espère. Et puis, Chega de Saudade. La nostalgie, ça suffit. C'est le titre de la chanson. L'histoire d'une renaissance et de la vie qui repart de plus belle. Chega de Saudade sort en 1958. C'est l'acte de naissance de la bossa nova.
Vai minha tristeza, diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim. Não sai de mim, não sai.
La principale nouveauté de ce titre, Chegaji Saudade, c'est l'interprétation à la guitare de João Gilberto. En fait, ce qui choque beaucoup, enfin, ce qui choque dans un sens positif, hein, tous ceux qui l'écoutent en 1958, c'est cette manière de jouer de la guitare. Puisque quand on écoute bien, on entend comme un décalage constant entre la ligne mélodique et son accompagnement rythmique. Ce qui fait que c'est très difficile de jouer et de chanter une bossa nova en même temps, même si le résultat donne quelque chose de très cool, qui a l'air assez facile à réaliser, assez simple. Et d'ailleurs, la guitare de João Gilberto a été surnommée au Brésil à cette époque-là « violão gago », « guitare bègue », comme s'il n'arrivait pas à retomber sur ses pieds. Et c'était une manière d'intégrer dans le monde de la chanson des éléments de cette rythmique afro-brésilienne de la samba, mais de manière très concentrée et intégrée dans le jeu même de la guitare. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Dans la compagnie de disques Odéon, qui a produit João Gilberto à l'époque, un des cadres de la compagnie a cassé le disque quand il a écouté pour la première fois Chegaji Saudade, parce que ça lui semblait intolérable de produire une musique de ce type. Dans la presse aussi, il y a eu beaucoup, beaucoup de critiques négatives. Mais inversement, et ce qui a dominé, et ce qui domine aujourd'hui encore, ça a été la réception très positive par toute une partie de la population, et notamment pour tous les musiciens en herbe, ou ceux qui ne pensaient peut-être même pas encore à devenir musiciens, Chegaji Saudade, ça a été un moment important. Quelqu'un comme Gilberto Gil, par exemple, raconte qu'il avait commencé à jouer de l'accordéon, parce qu'il écoutait beaucoup de musique du Nord-Est et que c'était l'instrument un peu typique à l'époque, et que quand il a entendu le disque de João Gilberto, il s'est dit: c'est fini l'accordéon, maintenant je jouerai de la guitare. Quelqu'un comme Caetano Veloso, lui il habitait dans une petite ville de l'intérieur de l'état de Bahia à l'époque, et il raconte comment le disque est arrivé dans un bar du coin, et qu'il allait devant le bar avec ses copains pour écouter Chegaji Saudade, et que c'était un moment très important pour eux. Donc on a énormément de témoignages de ce type qui montrent que même chez des musiciens qui après ont épousé des esthétiques tout à fait différentes, la bossa nova a été un choc, une révélation.
M'entendez-vous? Allô?
Oui.
Hello.
Hello.
Hello. Ok.
Et voici Mathieu Bogaerts, musicien, auteur, compositeur, chanteur.
Alors en fait, il y a juste un camion de poubelle qui est en face de chez moi qui va partir, qui fait du bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais...
Il est passé là, non?
Oui, il est passé, ouais, c'est bon.
D'accord.
Il a compris qu'il fallait qu'il parte. Surtout le propos de l'émission, il s'est dit, voilà, la bossa nova, j'ai rien à faire là, donc il est parti. Voilà.
Vous êtes où, Mathieu?
Je suis à Londres, car je vis à Londres depuis quelques années déjà.
Donc c'est depuis Londres que vous allez nous parler du Brésil et de bossa nova.
Exactement. Je vais tenter de vous parler du Brésil et de bossa nova, mais tout dépend de où vous allez m'emmener.
Je vous suis. J'ai invité Mathieu Bogaerts dans Pop & Co sur la bossa nova parce que même s'il ne la pratique pas toujours directement, pour moi, la façon dont il interprète ses chansons, c'est dans la lignée de la bossa nova.
Faire tomber le verrou, la cloison, l'écrou, faire tomber la serrure, frapper un grand coup pour de bon, faire un trou, puis faire tomber le mur. Courir, courir plus vite, quitter le site, rejoindre la sortie, franchir la limite, bâton dynamite, enfin sortir d'ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Qu'est-ce qui vous séduit dans la bossa nova?
J'aime la tendresse de cette musique, j'aime la pudeur aussi, et puis ce que j'aime beaucoup, je crois que c'est, ça paraît très très simple, évident, mais c'est d'une sophistication incroyable. C'est-à-dire que moi qui fais de la musique depuis de longues années, si j'essaye de jouer un morceau de bossa nova, je ne vais pas y arriver. Harmoniquement, c'est extrêmement sophistiqué et complexe.
Vous n'y arrivez pas? Vous prenez la guitare, vous avez une guitare à côté de vous là ou pas?
J'en ai une à 3,50 m, donc c'est relativement près. Je peux aller la chercher. Attendez, on ne bouge pas, j'arrive tout de suite.
Ouais, ça marche. Et pourquoi vous disiez que harmoniquement c'était compliqué?
Après, moi j'ai appris la musique seule, donc j'ai jamais pris de cours de musique, mais en tout cas, c'est Il y a tellement d'accords, tellement de positions complexes que jamais j'irais m'aventurer dans un bœuf bossa nova, quoi. C'est vraiment le dernier truc, ou alors en faisant des percussions.
Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de la multitude des accords avec la guitare, là, ou pas?
Alors, je pourrais, puis je vais vous montrer au moment où je ne sais plus, justement.
D'accord.
Alors, attendez, deux secondes, hein.
Ouais.
Déjà, c'est bizarre, ça. Voilà, je sais plus, après. Enfin, c'est que des... Pour pouvoir jouer un morceau comme ça, si j'avais su que vous alliez me poser la question, j'aurais répété une heure et demie pour retrouver ces accords. Alors que s'il faut chanter une chanson de... un standard de blues, il y a trois accords et voilà. Alors en tout cas, je suis très à l'aise avec le rythme de la bossa nova, le motif de guitare de la bossa nova. Il y a vraiment ce truc-là. Je sais pas si on m'entend.
Oui, oui, on vous entend.
Voilà, donc ça fait tac, tac, quatre, 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 tac, tac, tac. Voilà. Mais si ça fait pas ça, ça marche pas. Donc il y a vraiment un truc genre, ah bah oui, c'est ce rythme. Avant de l'inventer, ça existait pas, mais le jour où on l'a trouvé, on s'est dit, bah oui. Et d'ailleurs, je me dis que la personne qui l'a inventé l'a pas vraiment inventé, mais plutôt découvert. Et j'ai l'impression que maintenant c'est éternel et que ça ne pourra plus bouger. Donc la bossa nova, je la mets dans cette case de musique vraiment de mouvement, de rythme évident, en fait.
C'est d'abord un rythme pour vous?
Oui. À mon sens, ce qui est propre à la bossa nova, c'est aussi une énergie assez constante. João Gilberto, par exemple, qui est donc le représentant officiel de la bossa nova. Je pense que si on lui demande de hurler dans un micro, techniquement parlant, il peut crier autant que le chanteur d'AC/DC, je pense. Donc s'il chante doucement, c'est pas parce qu'il ne sait pas chanter fort, c'est un choix. D'ailleurs, c'est pas forcément conscient, c'est comme ça qu'il a envie d'exprimer ses sentiments. On a l'impression que João Gilberto ne veut pas déranger. C'est-à-dire que le fait de chanter doucement comme ça, il y a un côté qui m'aime me suivre, mais je veux surtout pas m'imposer, je veux surtout pas avoir une autorité sur mon audience. Et je me retrouve là-dedans aussi, vachement. C'est-à-dire que je sans vouloir parler de moi spécialement, mais si je dois faire le lien, en fait, je m'aperçois que autant j'adore l'idée qu'il y ait des milliers de gens à mon concert, mais je vais jamais racoler, quoi. Celui qui dit wow, ça peut être aussi super et je peux être dans le public et faire oh. Mais naturellement, quand je me retrouve moi sur scène avec une guitare, je suis dans un truc plus, j'ai besoin de créer une intimité, quelque chose de comme une confidence que je vais faire au public, et donc je retrouve ça vraiment dans le ton de la bossa nova. Et certainement, si la bossa nova n'existait pas, je ne ferais pas de la musique de la même façon. En tout cas, quand j'ai redécouvert ça, on va dire quand j'ai eu à peu près 20 ans, que j'ai pris conscience d'où ça venait, etc., je me suis dit, ah oui, forcément, ça a dû m'influencer. Pour moi, je ne peux chanter que comme ça, dans une certaine pudeur, dans une certaine intimité. Et je me retrouve dans cette énergie.
À travers les mailles, faut que j'y aille, aller tenter ma chance. Reprendre de la taille, passer la muraille et voir la différence. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Et tout à l'heure, quand Mathieu Bogart s'a fait...
Déjà, c'est bizarre, ça.
C'est la mélodie d'une chanson écrite par Antonio Carlos Jobim et Newton Mendoza. João Gilberto l'interprète en 1958. Le titre, c'est Desafinado, et Anaïs Fléchet assure la traduction.
Desafinado, c'est une chanson intéressante parce qu'elle peut presque faire figure de manifeste de la bossa nova au niveau des paroles. Déjà, desafinado, ça veut dire désaccordé. Quand João Gilberto chante, il dit « Si você disser que eu desafino, amor », si tu dis que je suis désaccordé, cela me provoquera une immense douleur, parce que ce n'est pas être désaccordé, c'est quelque chose de très naturel. Isso é bossa nova, c'est de la bossa nova. Désaccordé, c'est naturel, mais ce qui est rigolo, c'est que cette partie de la chanson, en fait, elle est très difficile à chanter. Il faut justement chanter très bien et très juste pour pouvoir la rendre de manière correcte. Donc, quand il parle d'être désaccordé, lui-même est complètement dans le ton
et dans la précision
et dans une performance de chanteur. Donc, la manière dont il chante, c'est une sorte de commentaire ironique des paroles de la chanson elle-même.
Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer presente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Este é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Tum, 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 tum.
France Inter, Rebecca Manzoni, Pop & Co.
Et maintenant, sur France Inter, c'est l'heure des pierres.
Pierre Lazarev, Pierre Desgros, Pierre Dumayet et Igor Barrère vous proposent 5 colonnes à la une.
Cette année-là, 1961, 5 colonnes à la une emmènent les téléspectateurs français au centre du Brésil, là où une ville a jailli de terre au milieu d'un plateau semi-désertique. Le Brésil invente sa capitale, la plus jeune du monde. C'est Brasilia, dessinée par Oscar Niemeyer.
Les Brésiliens ont fait un gigantesque pari. Ils ont conçu leur capitale portée par l'enthousiasme de l'avenir. C'est un acte de foi. Certains diront que Brasilia, c'est la charrue avant les bœufs. Mais ici, au Brésil, dans ce pays qui ne vit que pour le futur, il faut bousculer les conventions. Brasilia est peut-être un défi, mais un défi qui force l'admiration et attire le respect.
Brasilia est inaugurée en 1960. 2 ans plus tôt, la Seleção remporte sa première Coupe du Monde de foot. Le Brésil vit la démocratie et la croissance économique. La bossa nova est la bande-son de l'optimisme de ces années-là. Une musique qui célèbre la beauté et le plaisir, la baie de Rio et le Corcovado qui surplombe la ville. Le Corcovado rédempteur, quelle beauté, chante Silvia Telles.
Un cantinho, un violão, esse amor e uma canção, para fazer feliz a quem se ama. Muita calma para pensar e ter tempo para sonhar. Da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor.
Corcovado est une chanson écrite et composée par Antonio Carlos Jobim, dit Tom Jobim. En 56, Jobim rencontre Vinicius de Moraes dans un bar de Rio. Et voici comment on décrivait Vinicius à la télévision française.
Diplomate, écrivain, amateur et connaisseur de whisky et de cachaça,
mari successif de femmes toujours sublimes, le voici sur les marches de l'église du Carmo.
Ce que je trouve formidable au Brésil, c'est qu'on a créé une culture que maintenant que se dégage vraiment des influences, même de l'influence portugaise, n'est-ce pas? On découvre notre propre langue.
Ce jour-là, par chance, Vinicius venait d'accueillir le grand guitariste Baden-Powell. Ainsi commençait mon voyage de circumnavigation dans la jeune musique brésilienne, le plus beau voyage de découverte possible. Je ne vous dirai pas fermer les yeux, ouvrez les oreilles. Mais pour un moment, ce qui compte, c'est bien le seul plaisir enchanteur et magique du monde de la musique, le monde qui est né de la rencontre du lyrisme personnel et d'une musique populaire venue avec les esclaves du fond de l'Afrique. Le soir, la nuit entière, dans des appartements, chez les uns, chez les autres, la musique se consomme, se fait, se transmet, en des sortes de jam sessions que seul interrompt l'aube.
À l'époque, João Gilberto est marié à Astrud, grande chanteuse de bossa nova à laquelle cet épisode de Pop & Co est dédié ce matin. En 1964, João et Astrud conquièrent l'Amérique avec l'album Gets Gilberto, l'un des disques qui associe jazz et bossa. Astrud Gilberto et le saxophoniste Stan Getz tombent amoureux pendant l'enregistrement. Elle divorce de João et part s'installer aux États-Unis.
Cet album, en fait, on a beaucoup de musiciens brésiliens. Il y a João Gilberto, mais il y a aussi Tom Jobim qui joue au piano. Il y a Milton Banana qui est un batteur, donc qui assure toute la rythmique, ce qui est très important. Et Stan Getz qui s'essaye déjà à la bossa nova depuis quelques années, et Astrud Gilberto. Ce qui est important dans le disque, et ce que les musiciens brésiliens n'avaient peut-être pas perçu au point de départ, c'est le passage de la chanson en portugais à la chanson en anglais. Puisque ce qui a permis apparemment le succès de l'album et surtout du titre La fille d'Ipanema, The Girl from Ipanema, c'est moins l'interprétation de João Gilberto que celle de sa femme Astrud, qui parlait un peu mieux anglais que lui et à laquelle on a demandé de chanter en anglais. Donc c'est vraiment ce passage chanté en anglais par Astrud Gilberto qui aurait servi d'introduction pour le public américain à cette esthétique venue du Brésil.
Ce qui fait connaître la bossa nova dans le monde entier, c'est aussi le cinéma. En 1958, la Palme d'Or est attribuée à Orfeu Negro, un film musical réalisé par Marcel Camus. Le scénario est signé Vinicius de Moraes et la bande originale est dirigée par Tom Jobim. Pour présenter Orfeu Negro à Cannes, l'équipe n'a pas eu le temps d'insérer les sous-titres. Plus que les dialogues, ce sont donc les images, autant que la musique et les chansons de Jobim et Moraes, qui sont consacrés.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. Ah, felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor.
Et la bossa nova poursuit son chemin au cinéma. En 1966, Claude Lelouch remporte une autre Palme d'Or pour Un homme et une femme, avec Jean-Louis Trintignant, Pierre Barou et Anouk Aimée.
Par exemple, j'ai vécu une semaine au Brésil sans jamais y avoir été. Pierre a tourné un film là-bas. À son retour, il m'a parlé de la samba pendant une semaine. La samba était entrée dans notre vie.
La samba était entrée dans votre vie.
Oui.
Après Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant en automobile sous la pluie, suivent des scènes entre Pierre Barou et Anouk Aimée qui sont ensemble dans la vraie vie à l'époque. Il lui joue de la guitare dans la salle de bain. Elle lui lave les cheveux dans le lavabo. Des moments d'amour simples sur cette samba bossa interprétée par Pierre Barou, le genre de chanson qui vous chavire le cœur.
Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter, et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant, s'il est une samba sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. Faire une samba sans tristesse, c'est aimer une femme qui ne serait que belle. Ce sont les propres paroles de Vinicius de Moraes, poète et diplomate, auteur de cette chanson, et comme il le dit lui-même, le blanc le plus noir du Brésil. Moi qui suis peut-être le français le plus brésilien de France, j'aimerais vous parler de mon amour de la samba, comme un amoureux qui n'osant pas parler à celle qu'il aime, en parlerait à tous ceux qu'il rencontre. J'en connais que la chanson incommode, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sans l'aimer. Moi je l'aime et j'ai parcouru le monde en cherchant ses racines. Vagabonde, aujourd'hui pour trouver les plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter. Juan Gilberto, Carlos Lira, Dorival Caymmi, Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, Baden Powell, qui a fait la musique de cette chanson et de tant d'autres. Vous avez mon salut. Ce soir, je voudrais voir jusqu'à l'ivresse, pour mieux délirer sur tous ceux que grâce à vous j'ai découvert et qui ont fait de la samba ce qu'elle est. Saraba, Peshingin, Noël Rosa, Dolores Duran, Silvio Montero, et tant d'autres. Et tous ceux qui viennent, Edu Lobo, et mes amis qui sont avec moi ce soir. Baden, bien sûr, Ico, Osvaldo, Biji, Oscar, Nicolino, Milton, Saraba.
Et Saraba, ça veut dire quoi? Pierre Barou l'explique sur France Culture en 1993.
Bon, le mot en lui-même, c'est un mot qui vient de la nuit des temps africaines, véhiculé par les esclaves noirs au Brésil. Et donc c'est un mot de la mystique africaine, mais qui est un mot incroyablement large et généreux. C'est un salut, une bénédiction. C'est comme si nous, dans notre quotidien, on osait se dire Alléluia sans avoir l'air ridicule, quoi.
Barou a écrit ce morceau Samba Saraba quand il vivait au Brésil.
Tous les dimanches, j'allais à Maracanã au football. Et le dimanche soir, je rejoignais mes potes dans un bar où on avait l'habitude de se rejoindre et on faisait de la musique. Et comme disent les Brésiliens, chegué, cette chanson est arrivée, quoi. Alors on se l'est chanté 60 fois dans la nuit, on en avait jusqu'à la pointe des cheveux. Mon avion partait à midi. À 9h du matin, on se retrouve chez Baden, je prends une douche et on l'enregistre sur un Revox. Et je rentre avec ça à Paris. Et je la fais écouter à Lelouch, pas du tout en pensant à son film, parce que une chanson hommage où je prononçais des noms qu'on continue à découvrir aujourd'hui, 25 ans plus tard, ça n'avait rien à voir avec son histoire. Mais Lelouch, qui a vraiment des défauts énormes, a une qualité première, c'est qu'il y a un côté Lucky Luke, si tu veux. Il saute sur les idées, il dégaine à toute vitesse et dit « tu me la gardes pour mon film ». Et finalement, cette chanson s'est retrouvée dans le film. Et depuis, ça fait donc 25 ans, partout, J'ai rencontré des gens, que ce soit, ça peut être à Clermont-Ferrand, à Tokyo, à Londres, San Francisco, à Montréal, 3h du matin, dans un bar, des gens qui viennent me voir en me disant « j'ai changé ma vie sur cette chanson, j'ai arrêté de bosser, je suis parti en voyage ». Et cette chanson qui a provoqué et qui provoque tout ça, c'est la version enregistrée à 9h du matin chez Baden Powell après une nuit sans sommeil.
Jusque-là, le jazz s'était mêlé à la bossa nova. Pierre Barou sera pour beaucoup dans le mariage entre bossa et chansons françaises. Ça donnera des textes inédits ou des adaptations réussies. En 1973, Georges Moustaki livre une version en français d'Aguas de Marceau par Tom Jobim et Elis Regina.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do cão,
é o nó da madeira. Matita Pereira
é madeira de vento,
da ribanceira.
É um mistério profundo,
é o queira ou não queira.
É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comida.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira. Das águas de março, é o fim da canseira.
É o pé, é o chão,
é a mastradeira.
Passarinho na mão,
pedra de atiradeira.
É uma ave no céu,
é uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte.
É um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho.
Quand Elis Regina a chanté Les Eaux de Mars, je me suis mis vraiment au sens propre à ses genoux, je vais dire chantez-le-moi. Puis je fais ça deux fois, il l'a fait chaque fois. Et
oui, c'est Moustaki.
Ça a été pour moi une chose nouvelle dans ma vie qui a fait basculer mon sens de la musique, de l'harmonie, une fois de plus. Alors j'ai voulu savoir ce que ça disait, je me suis fait traduire, puis j'ai renoncé. C'était trop difficile de mettre des mots en français sur une musique aussi typiquement brésilienne. Et c'est par la suite que j'ai rencontré Jobim qui m'a dit « mais tu dois le faire ». Je lui ai dit « mais c'est impossible ». Il me disait « je m'appelle Charles-Antoine Jobin, je suis d'origine française, c'est pour ça que tu dois me traduire cette chanson et l'enregistrer ». Et il m'a pratiquement séquestré avec beaucoup de tendresse pendant 4 jours pour que je traduise sa chanson. Alors à chaque mot, il y avait une grande concertation, si c'était ça, par rapport à la musique, par rapport au sens. J'ai dit que je ferais tout mon possible. Et en fait, au bout de 4 jours, je l'ai fait, et d'une manière que j'estime, modestie à part, très réussie. Parce que grâce à lui, je ne me suis pas égaré. Je suis constamment revenu sur le sujet.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire. C'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant. C'est la pluie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tense, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire. Une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte. C'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du vif argent. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour, le bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé. La voiture rouillée, c'est la boue, c'est la boue. Un pas, un pont, un crapaud qui croasse. C'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon. C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces. Ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie.
Henri Salvador, Nino Ferrer, Claude Nougaro, Bernard Lavillier, ils se sont tous intéressés à la bossa. Bossa Nova et chansons françaises, c'est l'un des sujets d'étude d'Anaïs Fléchet.
Dans la chanson française, il y a depuis longtemps des versions de musique latino-américaine. Mais en général, ce sont des versions complètement différentes de l'original. Et pour ce qui est de la musique brésilienne, ce sont des brasilianades, enfin des versions très exotiques qui vont complètement à l'encontre du sens des paroles originales. Si on prend une chanson très connue comme « Si tu vas à Rio », Si tu vas à Rio, bon, c'est un imaginaire gay, comique, un peu érotique aussi. La chanson originale, c'est une chanson qui pleure la mort d'une actrice très célèbre d'un quartier populaire de Rio. Donc voilà, des univers complètement différents entre l'original au Brésil et les versions qui peuvent en être faites en France ou aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Et là, de la part de Moustaki, il y a vraiment effectivement cette envie d'être au plus près du texte, à la fois de ne pas en travestir le sens, mais aussi de s'intéresser aux formes même de l'expression. Par exemple, dans la chanson, il y a un vers qui dit « O vento ventando », le vent qui vente. Alors, ça n'existe pas en français. Et Moustaki le traduit par « le chemin qui chemine ». Donc, il reprend cette idée de la construction, mais bien sûr un petit peu décalée. Mais voilà, il a vraiment voulu être au plus près à la fois de l'esprit et de la lettre de la chanson. Et il avait aussi besoin d'avoir l'aval du compositeur, de Jobim. Parce que Jobim, à l'époque, était quand même passablement énervé par les traductions qui étaient faites en anglais de ses chansons, qu'il trouvait pas très réussies. Il était fâché, il avait l'impression de devoir se battre tout le temps pour imposer un certain nombre de choses. Même le mot Ipanema, au point de départ, les producteurs n'en voulaient pas parce que ça ressemblait trop à une marque de dentifrice qui était produite aux États-Unis à l'époque. Donc il a dû insister pour que la fille d'Ipanema continue à s'appeler la fille d'Ipanema dans la version en anglais. Et donc il a eu beaucoup de mauvaises expériences au niveau des traductions de ses chansons aux États-Unis. En France, les chanteurs français ont essayé vraiment à cette époque-là, et c'est un point de rupture de la bossa nova, d'avoir une approche plus authentique de la musique brésilienne.
C'est ce qu'a fait Françoise Hardy. C'est avec elle et son album intitulé « La question » que je voulais terminer ce récit sur la bossa nova, parce que ce disque « La question » est né de l'amitié entre deux femmes, Françoise Hardy et Tuca, une guitariste brésilienne qu'elle découvre dans un restaurant à Paris. Tuca lui propose des compositions, Françoise Hardy dit oui. Les chansons ne sont pas directement bossa, mais dans l'esprit, sûr que les bossanovistes ne les renieraient pas. Et voilà.
Je ne sais pas qui tu peux être, je ne sais pas qui tu espères, je cherche toujours à te connaître, et ton silence. Mon silence. Thank you. cri muet et mon silence.
Pour ce Pop & Co dédié à la bossa nova, la guide s'appelait Anaïs Fléchet, historienne et maître de conférences à l'université Paris-Saclay. Anaïs Fléchet a co-dirigé une histoire culturelle du Brésil parue aux éditions de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Mathieu Bogarts, dont vous avez entendu la voix et la guitare, publie un nouvel album la semaine prochaine, en anglais, c'est le titre, et il sera bientôt question d'une des chansons de ce disque dans Pop & Co. Elle aussi vient de sortir un nouvel album, elle est brésilienne et chante en français, en anglais et en espagnol. Elle s'appelle Dom de la Nena, et la voilà.
Inter. Rebecca Manzoni, Pop & Co.
Je suis premier, l'autre Rebecca est déjà là, d'accord, juste là.
Je suis dans le petit salon d'un bureau au centre de Paris, Arnold Turboust vient d'arriver, Étienne Daou ne va pas tarder. Il y a 15 ans, ces deux-là se retrouvaient pour concevoir un album qui s'intitule Eden. Dessus figurent plusieurs duos, dont celui-ci, Les Bords de Seine, avec Astrud Gilberto.
Sur les bords de Seine, le septième jour de la semaine, avec toi, j'aime bien traîner, traîner.
Pour moi, il y avait un côté très solaire dedans.
À Paris plage, Paris paresseuse.
Et puis un côté parisien, en fait, le fait d'habiter à l'étranger, souvent, fait qu'on pense à Paris comme une carte postale, et puis je suis provincial aussi, donc Paris reste une espèce de carte postale. Et les bords de Seine, c'était ça, l'idée de voir des amoureux. Puis aussi... Le septième jour de la semaine aussi, enfin, cet album était aussi un album sur...
Il s'intitule Eden.
Oui, qui était vraiment inspiré par la lecture de la Genèse. Donc ça se justifiait le dimanche, voilà, on va se promener en amoureux, en famille, sur les bords de Seine, il y a un côté comme ça, de s'abandonner, il y a quelque chose de très doux, très solaire.
La scansion est particulière aussi, la façon dont vous vous placez.
Oui, parce que j'ai suivi la mélodie de la trompette que j'ai adaptée à la voix, en fait. Comment écrire des mots en reprenant la mélodie de la trompette qui se trouvait dans la maquette. La base, c'est ça. Et puis après, je l'ai rendue humaine, on va dire.
On en verrait bientôt, valse.
Comment est venue l'idée d'un duo avec Astro Gilberto?
J'ai toujours été très influencé par la bossa. Et quand j'ai signé chez Virgin, j'avais dit à Patrick Zelnick que je veux faire un album de bossa. Il était absolument effondré. Mais c'est vrai que c'est la base, une des bases de ma culture, en tout cas vocalement. J'ai toujours été très inspiré par tous les chanteurs brésiliens, que ce soit Jobim, cet album de Caetano Veloso et Gal Costa qui s'appelle Domingo, qui est sublime, João Gilberto, et puis bien sûr Astro Gilberto qui a inventé un son. C'est un peu comme une espèce de Françoise Hardy brésilienne avec une voix droite. Et j'adore cette la mélancolie solaire comme ça. Je trouve ça très très beau. Et quand j'ai eu l'idée de ce refrain, je me suis dit, Arnold, qu'est-ce que tu penses de l'idée d'inviter Astro Gilberto qui nous paraissait être quelqu'un d'inatteignable. Enfin, c'est un peu comme quelqu'un qui n'existe pas, quoi. Enfin, elle est tellement figée dans The Girl from Ipanema et dans tous ces titres un peu mythologiques. Et donc elle paraît loin comme ça, elle paraît dans un monde qui est englouti en fait presque. Et donc je me suis mis à la recherche d'Astro Gilberto sans internet à l'époque, c'était quand même un sacré pari. Et on a correspondu par fax, parce qu'à l'époque je ne voulais pas avoir de téléphone pour me contacter, il fallait contacter que par fax. Et puis voilà, elle a accepté et on a commencé à correspondre beaucoup en décidant que ce serait elle qui écrirait le texte du refrain. Et moi, les couplets.
Et alors, comment s'est passé l'enregistrement avec Astro Gilberto?
Ça s'est bien passé, on peut le dire, mais ça s'est passé aussi un peu particulièrement. Il y a toujours un guide, en fait, qui conduit un peu la façon de chanter, enfin voilà, des autres. En l'occurrence, Étienne avait commencé.
À la guider, donc?
Oui, c'est ça. Moi, j'étais derrière. Et puis, à un moment donné, je pense que t'as été un petit peu excédé, tu m'as dit tu t'en occupes. Je dis ok, pas de problème, je m'en occupe. Puis ça se passait bien, ça se passait de mieux en mieux. Puis à un moment donné, je suis devenu un petit peu audacieux, je lui ai dit que c'était bien, mais que probablement si elle chantait un tout petit peu plus en rythme, ça serait formidable. Je pense que j'avais touché un point extrêmement sensible. Et là, elle est rentrée dans une rage folle et elle m'a dit dehors. Je suis sorti.
Elle vous a viré?
Elle m'a viré du studio, ouais. Après, j'aurais dû prendre beaucoup plus d'égards, j'ai pas fait attention, mais c'est vrai, je suis devenu un peu, enfin, voilà.
Mais je pense qu'on manquait d'informations. En fait, quelqu'un comme Astrud, c'est quelqu'un qui a inventé sa voix. Donc ouais, elle a une idée très très précise de comment elle doit sonner et comment elle doit chanter, ce qu'on ne savait pas.
Alors, ça veut dire quoi, elle a inventé sa voix?
Elle a une voix qui est unique, voilà. C'est Astrud Gilberto, c'est comme un son, c'est comme un instrument, c'est comme une flûte, ou...
voilà. Elle pose d'une certaine façon ses mots, elle glisse d'une certaine façon, c'est vraiment qu'à elle.
Et c'est vrai qu'en fait, on était deux jeunes coqs un peu présomptueux et à essayer de la diriger, parce qu'on avait une idée aussi précise de ce qu'on voulait avoir de notre disque, quoi. C'est normal. D'abord, elle ne voulait pas qu'on la voie, ce que je comprends tout à fait, c'est tout à fait respectable. Donc il y avait des paravents pour qu'on ne la voie pas chanter. Et ensuite, elle savait très bien ce qu'elle devait faire par rapport au chant, donc elle nous a un peu tolérés, puis au bout d'un moment, elle a explosé, je pense. Et donc après... Il y a eu une deuxième partie, à savoir qu'il fallait lui faire valider les choses et que jusqu'au dernier moment, on ne savait pas du tout si elle allait accepter la chanson en l'état ou pas.
Ouais, c'est vrai.
Donc, je me suis dévoué pour aller dans son hôtel et pour lui faire écouter en ne sachant pas du tout si elle allait me le jeter à la figure ou dire c'est super. Et puis, ce jour-là, elle était d'humeur très gracieuse et elle a dit oui.
Elle m'avait excusé entre-temps.
Ouf. Pop & Co, peut-être que ça se dirait aussi comme ça en portugais brésilien. P-O-P-N-C-O avec Étienne Daho et Arnold Turboust. Pour entrer dans les coulisses des bords de Seine, une chanson qu'ils ont écrite à quatre mains.
Alors j'ai retrouvé la cassette. Et voilà. Et ça marche. Je l'ai calé.
Cette cassette, c'est l'une des toutes premières étapes de travail des bords de Seine. Un instrumental qu'Arnold Turboust a composé chez lui avec un musicien qui s'appelait Jack Bally. Je
m'appelle Étienne.
Oui, j'ai dû mettre
Bon, c'est vraiment... C'est très très proche de l'original.
Ouais.
Très très proche de l'original. En fait, il y avait cette boucle là avec cette trompette qui était super. Mmh. Quand je l'ai eu, en général, Arnold, on procède comme ça. Il me donne une boucle et moi je l'écoute.
En boucle. C'est comme une obsession finalement.
De toute façon, une chanson c'est une obsession, à moins qu'elle se matérialise, enfin qu'elle accepte de se rendre, parce que c'est un peu comme des petites personnes.
Qu'elle accepte de se rendre ?
Ouais. C'est vraiment ça, une chanson c'est vraiment comme une personne pour moi. Et il faut lui tourner autour. Faut que j'écoute un nombre incalculable de fois les choses avant que tout d'un coup je trouve l'angle.
Parce que là, en fait, il y a déjà beaucoup d'éléments.
Il y a quoi comme éléments, là ?
Il y a foultitude d'orgues qu'on entend, il y a des pianos électriques, il y a donc des trompettes jouées, il y a des pianos, très légèrement des violons qu'on entend à peine derrière.
Les orgues qui font un peu aussi anciens derrière.
Oui, qui se prennent au fond.
Ils sont félins.
Ouais, ils sont...
Ils arrachent.
Ça griffe.
Ah, ça griffe pour vous, les orgues, là.
Ah oui, ils sont un peu agressifs, ils ont un côté un peu trashé.
Ouais. Ouais.
Aïe. Au moment où vous enregistrez cette chanson, tous les deux, vous êtes à Londres.
On est beaucoup sortis, on a avalé la ville et tout ce qui se passait, tous les courants, on a mis ça dans un shaker et on a fait un disque qui est unique parce qu'en fait, il s'inspire de plein de choses différentes pour en faire notre disque. Enfin, il y avait aussi une espèce d'ouverture qu'il n'y avait pas du tout en France. Donc si, pour faire le disque dont on rêvait, on ne pouvait pas rester en France. On pouvait pas, tout le monde était dans un espèce de truc très mainstream rap ou grosse variété. Et Arnold et moi, on ne se reconnaissait pas du tout dans ce qui était en train de s'installer. Et heureusement qu'on est parti.
C'est vrai. On s'est laissé aller à Londres, enfin, je veux dire, à écouter beaucoup de musiques différentes, tout ce qui se faisait. Il y avait aussi toute une vague jungle qui était très très intéressante. Il y avait évidemment le easy listening, il y avait des soirées Burt Bacharach, il y avait...
Drum and bass,
ouais.
Très importante. Ouais, moi, je passais des soirées dans les boîtes de drum and bass, souvent j'étais le seul blanc. Je trouvais que c'était comme le punk, en fait. Il y avait quelque chose d'extrêmement exaltant, cette musique.
La bande-son des clubs de Londres, hip-hop, électro, drum and bass, on entend tout ça dans cette chanson qui sonne comme un manifeste et qui ouvre l'album intitulé Eden.
Ton écœur au commencement, depuis que le monde est monde, avec toi je veux tout reprendre, à zéro depuis le début. Au diable le bien et le mal, et les sermons artificiels. Avec toi je suis vraiment moi, absolument moi. Oui.
Eden a fait l'objet d'une réédition avec titres inédits, remix, live. Et il y a quelques mois, Étienne Daho a publié Surf, un album de reprise où il interprète des morceaux créés par Pink Floyd, le groupe Phoenix, les Pet Shop Boys. Il figure aussi la chanson Moon River, créée par Audrey Hepburn. Koyen Guyen a réalisé cette émission avec Elisabeth Collet ce matin. Ilinka Negulesco trouve tous les sons et la documentation. Jean-Baptiste Audibert assure la programmation musicale. La semaine prochaine, Pop & Co est Pop & Gainsbourg, de ses premiers albums jusqu'à Histoire de Melody Nelson, et on suivra les pistes d'une nouvelle chanson du groupe Feu Chatterton. À samedi. Après les infos, vous retrouvez le grand face-à-face d'Ali Badou, Natacha Polony et Gilles Finkelstein.